BFM, 17h23h, le grand journal, Fabrice Lundy.
Voilà, regard sur l'actu, c'est donc reparti pendant une heure comme tous les soirs sur BFM dans le Grand Journal avec nos invités du soir. Je vous les présente. Édouard Filias, bonsoir.
Bonsoir.
Édouard Filias, consultant d'image et stratégie, agence de conseil en communication dirigée par Thierry Saucer. Vous êtes l'ancien président d'Alternative Libérale. Bonsoir Marie-Noël Lindemann.
Bonsoir.
Eurodéputé socialiste et puis un chef d'entreprise également avec nous, Rafik Smati. Bonsoir.
Bonsoir Fabrice.
Président de dromadaire.com, c'est le leader de la carte virtuelle, le leader de la carte sur internet. D'ailleurs, beaucoup d'activités. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. Qu'est-ce que c'est, 31 octobre ?
C'est Halloween.
Halloween, voilà. Regain d'activité, donc, en attendant, évidemment, les fêtes de Noël. Alors, bon, en attendant, juste avant les fêtes de Noël, il y aura le mois de novembre. Le mois de novembre qui s'annonce un petit peu compliqué, puisque, évidemment, les syndicats ne désarment pas, apparemment, pour protester contre la réforme des régimes spéciaux de retraite, avec une nouvelle journée de grève reconductible, hein, cette fois à la SNCF, le 14 novembre, le mercredi 14, journée de grève à EDF. AGDF pour la RATP, eh bien, ils attendent. Hein. Si le gouvernement ne revoit pas sa copie, ils se mettront en grève dans le métro parisien. Il y a des fonctionnaires également. J'ai l'impression, Édouard Filias, que le novembre s'annonce extrêmement chaud.
Novembre sera un mois rouge. Et je pense, avant ce mois rouge qu'on va traverser, aux entreprises qui vont payer les pots cassés, comme d'habitude, de l'échec du dialogue social en France. Et je pense aux familles qui devront trouver des solutions pour s'occuper des enfants qui ne seront peut-être pas scolarisés pour un certain nombre de jours de ce mois de novembre. Ça suffit, les grèves, ça suffit. Je crois que le gouvernement a proposé de négocier aux syndicats jusqu'au mois de janvier, avant de passer à la loi. Là, on est dans la négociation et déjà le rapport de force, la violence finalement. On est dans l'agression. Et moi, je dis stop à cette agression.
Marie-Noël Lindemann.
Oui, bah ça, c'est un discours récurrent qu'on entend depuis toujours. La réalité, c'est que s'il y avait de la négociation, ça se saurait. Les syndicats la demandent, la négociation. Ce qu'évidemment, ce que dit le gouvernement, c'est on ne veut pas négocier sur les principes généraux. Et on vous renvoie chacun dans votre entreprise à votre petit cas particulier. Donc ça, ça ne tient pas. Bon, dans cette affaire de retraite, il faut bien se rendre compte qu'au-delà des régimes spéciaux, c'est l'ensemble de la question des retraites qui devrait faire l'objet d'une discussion globale. Parce que là, on met en exergue ces fameux régimes spéciaux. Mais il y a des tas de régimes hyper déficitaires, beaucoup plus déficitaires que ceux-là, qui pèsent beaucoup plus sur l'équilibre des retraites. Et là, on n'en parle pas. On avait l'opportunité d'une taxation des stock options très importante pour nourrir, par exemple, le fonds de retraite ou les équilibres de retraite.
Ça a été voté dans le PLFSS.
Très, très faible. Très, très faible. Il suffirait de les mettre au niveau des cotisations sociales. Et à partir de ce moment-là, on aurait des ressources qui permettraient de négocier tranquillement des évolutions à long terme liées aux évolutions démographiques.
Oui, mais Marie-Noël Lindemann, Sarkozy, il dit bon, il ne va pas céder sur les régimes spéciaux. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les syndicats demandent l'annulation de cette réforme des régimes spéciaux. Et Xavier Bertrand dit ben, moi, je suis encore ouvert à la discussion, notamment sur les principes de la réforme, notamment pour examiner les propositions des syndicats pour atténuer les conséquences pour pouvoir d'achat.
Il a fait un Grenelle de l'environnement, il n'a qu'à faire un Grenelle social, c'était ça l'origine à Grenelle. Il n'a qu'à faire un Grenelle sur cette affaire.
Rafik Smati.
Oui, j'avoue avoir plus ou moins loupé un épisode parce que nous avons un président de la République qui a été élu sur la base d'un programme dans lequel il avait dit très clairement qu'il allait remettre en cause et réformer les régimes spéciaux. On a ensuite eu une majorité législative qui s'est faite élire sur la base de cette même plateforme électorale. Donc je dirais que les cartes ont été mises sur la table depuis déjà un certain nombre de mois, de semaines. Donc le principe d'aligner les régimes spéciaux à 40 heures, en effet, ne semble pas négociable. Ne semble pas négociable pour une raison d'égalité.
Sur le fond, tout à fait dans le sens de monsieur, les Français, les régimes spéciaux, ils n'en veulent plus. C'était clair dans le programme de Nicolas Sarkozy. 84% des Français aujourd'hui souhaitent l'alignement des régimes spéciaux sur les régimes généraux, ce qui ne sera même pas fait puisque les régimes spéciaux seront alignés sur le régime de la fonction publique, ce qui lui-même est un régime privilégié dans notre système. Madame Lindemann fait semblant de confondre la taxation des stock options et les questions des retraites. C'est un grand mélange, mais il y a quelque chose quand même que vous avez dit qui me choque. Vous avez comme ça négligé du revers de la manche cette question des grèves et des souffrances que les entreprises et les salariés endurent en disant que c'est un débat récurrent. Encore ces gueux qui viennent nous embêter avec leur récrimination
discrimination quand des grèves se produisent. Non, Madame Lindemann, il y a des millions de salariés qui vont subir ces grèves dans leur vie et qui vont les subir de plein fouet. Et ça, ça n'est pas acceptable de déconduire comme ça cette douleur.
Mais vous faites partie des gens qui souhaiteraient que la charge soit mise du côté des grévistes. Moi, je dis que la charge est à mettre du côté du gouvernement qui n'a pas ouvert sérieusement des négociations.
Vous avez quoi,
je vous réponds à l'argument sur le fait que comme c'était dans le programme de Sarkozy, il n'y a plus besoin d'un Parlement, il n'y a plus besoin de négociations.
C'est la démocratie.
Attendez.
Qu'est-ce qu'on va négocier, un régime spécial sous le régime spécial.
On ne peut pas prendre qu'un bout de ce qu'a dit le président de la République quand il était candidat. Il vous a expliqué que sur le social, il fallait que ça évolue dans la négociation, que ça devait être une nouvelle ère de la démocratie sociale. Qu'il en fasse la preuve.
Alors, vous avez quoi ? On va faire une pause, on va laisser passer les marchés, le rappel des titres de l'actualité, puis on va vous retrouver là tous les trois. C'est bien, Edouard Filias, Marie-Noëlle Lindemann, Rafik Smati, à tout de suite.
BFM, la radio de l'écho.
Voilà, 19h15. Alors, à l'instant, Sidonie Ouattrigan, décision très attendue de la Fed qui abaisse ses taux d'un quart de point.
Exactement, 25 points de taux de base. Hein. Donc, on passe à 4,5% pour le taux directeur de la Fed. C'était attendu par la plupart des analystes. Les investisseurs, elles l'avaient d'ailleurs anticipé très largement depuis 24 heures. La priorité de Ben Bernanke semble donc être de stimuler l'économie américaine. On abaisse le loyer de l'argent pour rassurer les marchés financiers et très exposés depuis quelques temps à la crise des subprimes.
Voilà, la Fed qui annonce, qui précise que la croissance est solide au troisième trimestre avec une petite amélioration sur les marchés financiers, mais la croissance qui va sans doute ralentir avec l'intensification de la crise de l'immobilier, légère amélioration de l'inflation, mais les risques n'ont pas disparu. Voilà ce qu'explique la Fed. On y reviendra tout au long de la soirée avec Sidonie Ouattrigan sur BFM.
Un point sur les marchés boursiers tous les quarts d'heure, uniquement sur BFM Radio.
Allez, les trois grands titres de l'actualité de ce soir, Jérémy Brossard.
Le verdict dans le procès des attentats de Madrid en mars 2004, la justice espagnole a condamné 3 des 8 principaux accusés à des peines maximales, un verdict qui ne satisfait pas les familles des victimes qui ont l'intention de faire appel. La mobilisation contre la réforme des retraites en France. Les syndicats de la SNCF lancent un appel à la grève reconductible le 13 novembre au soir. Appel à la grève également de deux fédérations de l'énergie pour le 14 novembre. La RATP menace de rejoindre le mouvement si le gouvernement ne revoit pas sa copie. De nouvelles suppressions de postes chez Alcatel-Lucent. Au total, 4000 emplois supprimés dans le monde d'ici 2009. Ces réductions d'effectifs devraient concerner essentiellement les États-Unis. L'équipementier télécom espère réaliser ainsi 400 millions d'euros d'économies. Et puis après Strasbourg, Ajaccio, la Corse accueillait aujourd'hui le deuxième conseil des ministres décentralisé. Nicolas Sarkozy et le gouvernement étaient entourés de mesures de sécurité exceptionnelles. Un rendez-vous dénoncé par les syndicats et les nationalistes radicaux sur l'île.
Voilà, on y reviendra d'ailleurs dans un instant avec nos invités sur BFM. Passez une très bonne soirée, 19h18.
Le Grand Journal, 6 heures d'info éco non-stop sur BFM, Fabrice Lundy.
Voilà, dans ce studio, toujours ce soir pour commenter l'actualité de la journée, riche actualité, Marie-Noëlle Lindemann, eurodéputée socialiste, Rafik Smati, chef d'entreprise, président de dromadaire.com, c'est de la carte virtuelle sur Internet, et puis Edouard Filias, consultant d'image et stratégie, l'agence de com dirigée par Thierry Saucet. On est toujours dans les grèves, on en parlait, c'était très agité il y a quelques instants entre Edouard Filias et Rafik Smati d'un côté, et puis Marie-Noëlle Lindemann de l'autre. La réforme des régimes spéciaux de retraite à la RATP, peut-être grève si le gouvernement ne revoit pas sa copie, en tout cas grève à la SNCF, grève reconductible, le mercredi 14 novembre, grève chez EDF, grève chez GDF. Bon, tout de même, maintenant, il y a la grève également dans la fonction publique, un mouvement qui s'annonce. C'est vrai que le gouvernement a lancé des chantiers, tous azimuts, conforté par son succès électoral, vous le disiez, Rafik Smati juste avant la pause, conforté par son succès également aux législatives. Succès électoral, chantier tous azimuts, mais est-ce qu'il ne prend pas des risques finalement de mener comme ça tout de front en même temps ? Tiens, qui prend la parole ? Marie-Noëlle Lindemann.
Oui, écoutez, moi je pense que Sarkozy a une stratégie qui est celle d'essayer de nous prendre de vitesse, de tout passer en force, de multiplier les fronts en pensant que rien ne sortira de tout ça et qu'il n'y aura pas de lisibilité pour résister à sa politique. Il se trompe parce que justement, ça fait une accumulation de personnes qui voient que l'urgence sociale est là et que les réponses du gouvernement n'améliorent en rien la situation. Car on parle des retraites, mais ce que les gens ont en tête aujourd'hui, c'est d'abord leur question de pouvoir d'achat. Et là-dessus, silence radio, parce que alors, ils nous promettent les marges arrière, mais c'est des cacahuètes par rapport à l'énorme problème de l'augmentation du prix de l'énergie, de l'augmentation des loyers, du fait que le SMIC et les bas salaires n'aient pas été, les salaires en général, n'aient pas été...
Vous feriez quoi, vous, Marine Lindemann? Parce que le pétrole qui est à 94 $,
d'abord,
en fait, quoi?
Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que du côté de l'essence, il fallait faire une taxe qui soit
la TIPP flottante.
Comme dans le gouvernement Jospin. Deuxièmement, moi, je suis d'abord pour qu'on revalorise les salaires. Parce que je pense que c'est ce qui donne à la fois de la valeur au travail et qui donne du vrai pouvoir d'achat à nos concitoyens.
Édouard Filias.
Là, on est dans le propos incantatoire. On ne décide pas de revaloriser les salaires sur un bureau ministériel. Les salaires sont revalorisés parce que l'économie fonctionne, parce qu'elle génère de la croissance, parce que tout le monde a confiance. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans un pays séquestré tous les 6 mois par une grève ponctuelle ou massive, reconductible, historiquement exceptionnelle en Europe, dans notre pays, Madame Lindemann?
Mais
et puis,
mais
vous n'avez
tout,
pas l'air
monsieur.
Au courant, mais avant
des,
que Sarkozy soit élu président,
Bahn,
avant que Nicolas Sarkozy soit élu président, il y a eu une campagne électorale où il a eu l'occasion de dire ce qu'il ferait s'il était élu. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est face à un problème. Il a du mal à engager le dialogue social, ce qu'il manifestement il veut faire, puisque je vous rappelle que la loi ne sera votée éventuellement si le dialogue social échoue que à la rentrée 2008. Donc là, le gouvernement veut négocier, mais il n'a personne en face. Les syndicats en France ne représentent pas les salariés. DDB, principal syndicat allemand, 2 millions de salariés membres,
non, ça
60%
considérablement
des salariés.
Ça,
ça,
reste
ça,
même, ça reste quand même au-dessus de ce qu'on a en France. 7% de syndicalisation en France.
Marie-Noël Lindemann, les syndicats en France, on ne peut pas négocier avec eux parce qu'ils ne représentent personne.
La France, l'Allemagne, ben c'est pas l'Allemagne. On est dans un autre pays, une autre histoire, une autre tradition. La négociation sociale, il y aurait des avancées.
Si vous permettez, Madame
Lindemann,
je suis convaincu que, effectivement, on parle énormément de dialogue social. On sait très bien que cette réforme des régimes spéciaux. Oui, mais on sait très bien que cette réforme des régimes spéciaux se fera. Et on sait très bien que ces fonctionnaires seront alignés sur la base des 40 heures. Je pense des 40 ans.
Comment vous le savez ?
Ça se fera évidemment.
Bah, évidemment.
Par contre,
voilà,
je suis convaincu que les syndicats se grandiraient aujourd'hui en étant dans une démarche, disons, constructive, en dialoguant. Aussi,
mais il le demande, le dialogue.
Il
le demande, le dialogue.
Et en accompagnant le projet, je crois qu'il se
grandirait. Bien sûr, il faudrait qu'on soit d'accord avec la politique de la droite qui est une évidence pour tout le monde.
Marie-Noël Lindemann, vous êtes sûre qu'il n'y a pas de concertation, de dialogue
depuis?
J'ai l'impression que Xavier Bertrand n'a cessé de rencontrer.
Mais là, on est dans le jeu de la communication. Tout le monde vient dire on dialogue. Ce n'est pas une question de dialogue, c'est une question de négociation. Qu'est-ce qui peut être discuté et qui peut bouger? Or, le gouvernement dit sur les grands principes, on peut rien bouger, on peut bouger que dans les entreprises. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'ils mettent sur la table davantage d'éléments de négociation.
Pourquoi les conducteurs de train ont accepté?
Mais parce que pour une raison simple, c'est que le gouvernement va tenter de faire cela. Il va prendre petite profession par petite profession, à qui il va accepter des niches davantage. Tant mieux, c'est toujours ça le prix pour les conducteurs. Il va leur accepter des avantages. J'ai très bien connu ça dans le transport aérien. On donnait aux contrôleurs aériens, après on a donné aux pilotes de ligne, et puis on ne donnait pas au reste des salariés. Donc il va faire cette opération, il va tenter cela.
Donc on va substituer des régimes spéciaux aux régimes spéciaux.
Je le dis très clairement, si aujourd'hui il y a une grande sociale qui converge, c'est que s'il n'y avait que le problème des retraites de la fonction publique, elle serait un point, c'est que l'énorme problème social de ce pays... Pouvoir d'achat, difficulté des salaires, franchise médicale, c'est cela qui fait les convergences.
Je
et les salaires, je
Madame
m'excuse
Lindemann,
de dire qu'en France,
mais...
on a un outil, c'est le SMIC. Et d'ailleurs, mes amis sociodémocrates allemands revendiquent un salaire minimum
Madame Lindemann,
je
n'existe
pas.
Madame Lindemann, je comprends que vous vous réjouissiez que des grèves aient lieu dans notre pays au mois de novembre.
Tout,
ça va finalement dans le sens de votre clientèle électorale. Mais je pense que quand on compare l'intérêt national, si vous voulez, aux préoccupations électorales, je préfère l'intérêt national. Je pense que Nicolas Sarkozy aurait pu peut-être
placé avant ces réformes du modèle social, qui sont des réformes incontournables, qu'on fera, et vous avez raison, monsieur, vous avez raison, on
c'est
les fera.
Ça, monsieur.
Avant ces réformes, il aurait dû placer une réforme de la vie syndicale. Si, par exemple, les syndicats cessaient d'être des monopoles dans notre pays, puisque vous savez que la CGT est un monopole, elle a un droit de représentation, et qu'on laissait les salariés créer de nouveaux syndicats pour les représenter,
ça,
peut-être les syndicats représenteraient-ils mieux les salariés, seraient-ils plus crédibles et plus responsables dans le dialogue social.
Je vous rappelle que
c'est quand même une réglementation qui date de quelques dizaines
mais
d'années.
Mais c'est
faut
les syndicats
aussi.
Les premiers qui demandent qu'on revoie.
50 ans.
Je m'excuse, mais je suis tout à fait d'accord pour qu'on revoie la représentation des syndicats. Il y a des syndicats qui ont émergé.
Et la transparence
qui ne
de leur
sont
compte,
pas,
madame aussi. Ne,
mais bien sûr, et du patronat aussi, monsieur.
Pour qu'ils ne soient plus financés
donc,
par l'État, les hommes politiques
et
les patrons.
Et par le patronat, absolument. Voilà. Mais cela dit, le travail qui a été fait dans le secteur politique, il est très peu financé, les syndicats, par les partis politiques en France. Et comme vous prenez toujours des exemples étrangers, vous saurez au contraire qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, ce sont les partis politiques et les syndicats qui s'auto-financent.
Et puis il faudra voir justement la question
je
du
suis
financement.
Bien, mais je suis pour qu'on revoie la représentation syndicale. Et quand je parlais de la démocratie sociale, il y avait une urgence qui était de dire pas d'accord signé s'il n'y a pas d'accord majoritaire. Et pour qu'il y ait des accords majoritaires, connaissons les syndicats représentatifs.
Avant les
voilà
infos de la nuit, Rafik Smati, s'il vous plaît.
Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on parle énormément du public et on oublie de parler du privé. Il y a deux jours, on a annoncé que le privé allait passer d'ici 2012 à 41 ans d'années de travail. Il est évident que dans cette logique-là, quand on parle de réforme des services spéciaux, non seulement on parle de 40 ans, mais on devrait même parler de 41 ans, si on devrait aller au bout de la logique. Et je regrette un petit peu qu'on continue à catégoriser comme ça, d'un côté le privé, d'un côté le public, alors que finalement...
Et à l'intérieur du public, entre entreprises du transport public et
exactement.
Puis le reste de la fonction publique, alors, qui est maintenant sur le
je
régime
suis,
général
alors,
de la loi Fillon.
Personnellement, je suis tout à fait choquée du passage à 41 ans de le privé.
Bon.
Je le dis très franchement, je pense que le drame que nous avons effectivement en France, c'est qu'on utilise le privé pour faire reculer, ses capacités de mobilisation sont faibles, et après on dit au public, alignez-vous sur le bas. J'aimerais que tout le monde fasse comme le président de la République qui harmonise vers le haut le niveau du statut et de ses salaires. Parce que alors lui, il n'a pas dit il faut baisser Fillon, il a dit il faut augmenter Sarkozy pour aller vers Fillon.
Vous êtes sûr qu'on est sur le même sujet, Marine
Non,
Lina,
mais je dis que symboliquement...
J'ai l'impression qu'à gauche
c'est
aussi,
l'amalgame, là.
Beaucoup,
on mélange tout,
beaucoup n'ont pas critiqué. Justement
mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue symbolique, on a toujours d'un côté la baisse vers le bas et de l'autre, les inégalités s'accroissent. Et ça, c'est
ce sont deux sujets différents.
Non, mais bien sûr.
Vous en quand même.
Mais politiquement,
je pense que nous gagnerions à séparer les problèmes.
Ouais. Bien sûr, on sépare toujours pour les riches,
alors,
pour
attendez,
les patrons, pour les
Lindman, Rafik Smati, et jamais Edouard Filias, s'il vous plaît, on va laisser passer les infos de la nuit, les marchés. On va reparler justement de la baisse des taux de la Fed avec Sidani Ouattrigan. À tout de suite, vous restez avec nous, évidemment. Ça reste toujours très animé ce soir.
BFM, 17h23h, le grand journal, Fabrice Lundy.
Regard sur l'actu du jour avec nos invités toujours ici en studio, Edouard Filias, consultant d'image et stratégie à agence de conseil en communication, Marie-Noëlle Lindman, eurodéputée socialiste, et puis Rafik Smati, président de dromadaire.com, le leader de la carte sur internet. Ça tombe bien aujourd'hui, il y en a beaucoup avec Halloween le 31 octobre. Alors bon, on va pas reparler des régimes spéciaux de retraite, hein, ça nous a beaucoup occupé la première demi-heure, c'était un petit peu chaud entre vous trois. Bon bah voilà, très bien, n'empêche que, allez, j'y reviens quand même d'une certaine façon, quand même, parce que toutes ces grèves, on parlait de la grève du 14 novembre reconductible à la SNCF, est-ce que ça n'affaiblit pas l'attractivité de la France? On a eu encore aujourd'hui le rapport du World Economic Forum, le forum de Davos, qui nous montre que là, les États-Unis, la Suisse, bah, caracole toujours en tête, mais la France, elle est rétrogradée, elle perd 3 places, elle part de la 15e, elle arrive 18e en 18e position. Les experts notant que le marché du travail français est jugé désastreux, les relations entre employeurs et salariés sont mal notées, l'ampleur du déficit budgétaire, le niveau d'endettement, et puis les grèves. Justement, tiens, Edouard Filias, c'est ce que vous craignez, c'est ce que vous nous laissiez entendre tout à l'heure.
Mais d'abord, on ne peut faire que le constat du recul économique de notre pays, malheureusement, hormis quelques secteurs stratégiques ces dernières années. L'économie, et je voudrais le rappeler, parce que qu'on soit de droite ou de gauche, on ne peut faire que ce constat, c'est fondé sur la confiance. J'investis mon argent... J'ai confiance en l'avenir. Je construis une usine, j'ai confiance en l'avenir. Un nouveau gouvernement est élu, est-ce qu'il va faire une bonne politique? Est-ce que j'ai confiance dans sa qualité, dans sa crédibilité? Si la confiance, elle ne fonctionne pas, l'économie, elle ne fonctionne pas non plus. Les entrepreneurs qui veulent investir en France, les investisseurs qui veulent amener des capitaux à nos entrepreneurs, les gens qui ont un patrimoine en France, n'ont plus confiance, ou pas assez confiance. pas assez, parce qu'il y en a encore certains courageux qui ont confiance dans notre économie. Et je crois que les syndicats, à un moment donné, et les acteurs du dialogue social en général, doivent comprendre qu'on doit construire la confiance dans notre économie parce qu'elle est en ruine aujourd'hui. Et il faut se battre pour ça. Et c'est certainement pas en faisant des grèves.
Rafik Smati.
Oui, je pense qu'en ce jour d'Halloween, il ne serait pas nécessairement opportun de jouer à se faire peur. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, en effet, on a un certain nombre de dysfonctionnements dont on est tous d'accord pour en parler. Cela dit, ce rapport du Forum de Davos est un rapport qui est très subjectif. Il est basé sur je crois, 12 000 experts qui ont émis des analyses assez subjectives. On sait que la France a énormément de qualité, et je pense que François Fillon a eu tort, d'ailleurs, de dire que la France était en état de faillite. L'État français, en tant qu'appareil d'État, en effet, est en difficulté, mais la France est un pays qui est éminemment dynamique.
Oui, alors il y a quand même des points positifs, parce que tout n'est pas négatif, vous avez raison, Rafik Smati, la qualité de ces infrastructures de la France, soulignée par les experts, la qualité du système de santé, du système éducatif, notamment pour les jeunes enfants. Marie-Noëlle Lindemann, les grèves, ça nuit ou pas à l'attractivité de la France, quelles que soient les responsabilités, attention.
Je pense que ce n'est pas la question principale.
Oui.
Je suis effectivement très préoccupée sur l'état économique du pays. 5 ans de gouvernement Chirac de droite, plus 1 an de Sarkozy, la France exporte de moins en moins, accumule du déficit budgétaire, n'a pas de croissance. Et donc, je pense qu'il y a effectivement un énorme problème de politique économique et je veux pointer plusieurs éléments. D'abord, comme vous le disiez à très juste titre, il faut plutôt prendre les faits que prendre les cotations. Je rappelle qu'on est un des grands pays où viennent se placer les investissements étrangers. Nous sommes parmi les meilleurs pays. Où vient le plus. Et d'ailleurs, de mon point de vue, c'est plutôt inquiétant. Je souhaiterais pour ma part que la France se dote de fonds souverains intelligents qui aident à l'investissement dans le pays. Car plus on est dépendant du capital étranger, plus les richesses produites en France, notamment quand le salaire est moins rémunéré que le capital, vont plutôt vers d'autres pays qui en engrangent des profits. Je ne suis pas pour qu'on s'enferme et qu'on bloque. Je dis, il pourrait y avoir des fonds et deuxièmement, une politique industrielle. Certes, le gouvernement parle d'innovation, mais l'innovation, c'est un tout. Il faut aussi des politiques industrielles ambitieuses dans un certain nombre de secteurs, des investissements publics. On souffre du manque d'investissement. Alors, je veux bien entendre le discours sur la croissance, si avec la question des grèves. La question de la croissance, c'est que la capacité est sûre qu'on va trouver un marché. Et donc, il y a le problème du pouvoir intérieur, du pouvoir d'achat intérieur. Et puis, il y a aussi une autre politique d'exportation qui soutienne mieux les PME.
Édouard Filias.
Oui, si j'entends Madame Lindemann, tout va bien. Finalement, ce n'est pas si mal.
Je dis que 5 ans de droite, c'est la catastrophe.
Moi, je vous rappelle qu'on est nos voisins européens comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou l'Espagne sont en train d'exploser. L'Espagne a près de 3,5-4 points de croissance. Quand nous, on va péniblement chercher le troisième. Et il y a un problème de fond, de confiance dans ce pays. Quand vous êtes un jeune et que vous voulez créer une entreprise, vous avez peur de le faire. Et quand vous vous êtes lancé, un an après l'avoir créé, vous avez une chance sur deux qu'elle ait disparu. Comment expliquez-vous qu'en Allemagne, il y ait 5 fois plus qu'en France de PME qui sont entre 10 millions et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est les PME qui créent des emplois, Madame Lindemann, ces PME-là.
Mais
eh bien,
monsieur,
on ne les a pas dans notre
pas
pays.
Dit, je ne vous ai pas dit, c'est de la faute de votre gouvernement,
non, mais
monsieur. Ça fait 6 ans.
Votre gouvernement, il n'est pas au gouvernement.
Oui, enfin, d'accord, je m'excuse, mais Alternative Libérale, ils ont appelé à voter Sarkozy.
Non, c'était François Bayrou.
Pardon, excuse-moi.
Je ne vous en veux pas. Voilà. Ceci dit, je crois qu'il y a un problème.
C'est la même
en France,
politique
de
économique.
Création des PME qui portent les emplois, qui créent des emplois, parce que les entrepreneurs qui ont des petits patrimoines et qui prennent des risques énormes lorsqu'il faut investir,
vous avez raison.
N'osent pas franchir le pas. Le problème, et là, je pense que peut-être on sera d'accord, ça n'est pas le CAC 40. Le CAC 40, ça va, mais il est déjà mondialisé. Le problème, c'est les PME
de
croissance.
Les deux, parce que il est vrai aussi quand l'industrie, les grosses, la PME est souvent sous-traitante. C'est un énorme problème, les PME en France. Et là, moi, je pense comme vous que c'est la question prioritaire. Mais on pourrait expliquer pourquoi en Allemagne, le réseau bancaire n'a pas la même histoire et soutient mieux la croissance des PME.
Eh bien, Marie-Noëlle Lindemann, Édouard Filias, Rafik Smati, on va vous retrouver pendant quelques minutes encore, juste après les marchés, l'essentiel de l'info sur BFM. Soyez patients tout de suite.
BFM, 17h23, le grand journal, Fabrice Lundy.
Voilà, toujours dans ce studio avec Édouard Filias, Marie-Noëlle Lindemann, Rafik Smati pour commenter l'actualité. Un petit mot s'il vous plaît sur Alcatel-Lucent quand même, c'était l'actualité entreprise de la journée. 4000 nouvelles suppressions de postes. J'ai l'impression que c'est le plan de la dernière chance pour la direction, dirigée par Pat Russo, Serge Churuc, Édouard Filias.
Bah, c'est triste de voir des entreprises se battre pour survivre et le faire au détriment de plans sociaux très lourds. Alcatel, c'est probablement une entreprise qui a subi une mauvaise stratégie. Je me souviens, il y a 10 ans, on parlait de l'entreprise sans usine. Tout cela était probablement avant-gardiste, en tout cas trop mythique, et j'ai peur qu'aujourd'hui, elle en paye les pots cassés.
Oui, oui, Marie-Noëlle Lehmann.
Oui, je partage ce point de vue. Il y a deux points qui me paraissent majeurs. Premièrement, ils veulent balayer tout le champ du secteur, et je crois qu'ils devraient davantage se centrer. Et ils tuent l'envie de leurs cadres les plus brillants, leurs techniciens les plus brillants, de rester, parce qu'ils n'ont pas une politique de ressources humaines, de valoriser les personnels. Et donc, je pense que vraiment, il y a un problème de management considérable.
Voilà, c'est ça. Il y a surtout un problème de management. Hein, depuis le mariage, la fusion Alcatel-Lucent avec Patricia Russo, non ? Oui, Rafik Smati de Dromadaire.
Au-delà de ça, j'ai envie de dire que cette fusion en elle-même n'avait pas un véritable sens industriel, si ce n'est être le numéro un mondial. C'est ce qu'on nous a vendu. Et le résultat aujourd'hui est complètement l'inverse.
C'est toujours le problème du mariage un peu contre nature.
En gestion, pendant 30 ans, on a dit qu'il fallait faire gros pour avoir des synergies. Et aujourd'hui, la vérité, on se rend compte chaque fois qu'il y a ce genre de méga fusion, que Small is beautiful, et qu'en ayant des petites unités, on gère mieux. Quoi.
Ouais, alors Small is beautiful, bah, il était small
au
départ.
Il va finir par être small là. Hein.
Ouais, ouais, là, en tout cas, il y en a un qui était small au départ et qui est devenu énorme, c'est Google. Google qui ne cesse de s'envoler à la bourse de New York pour la première fois aujourd'hui. Le titre qui a dépassé les 700$. C'était 600$ au début du mois d'octobre, vous vous rendez compte, Edouard Filias. Quelle superbe, quelle super saga.
Google, c'est énorme et c'est en train de devenir un fait de civilisation. Là, on n'est même plus dans l'entreprise, on est dans le phénomène de société, de civilisation mondiale. Google va bientôt sortir son nouveau téléphone qui vous permettra d'appeler par Internet où que vous soyez. Et vous verrez qui est en ligne et qui est disjoignable au moment où vous vous connectez. On rentre dans quelque chose qui va devenir un instrument de nos vies quotidiennes. C'est du ressort de l'imprimerie avec l'invention du Gutenberg. Et je crois qu'on est en plein dans une révolution là.
Rafik Smati, vous qui dirigeait dromadaire.com, c'est, je rappelle, c'est le leader de la carte postale, enfin la carte de vœux virtuelle, hein, carte pour la fête des pères, la fête des mères, etc. Ça doit vous inspirer.
Non, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Internet permet de redistribuer les cartes. Google est arrivé relativement tard sur Internet, en 1998. Mmh. Et je n'irai pas dans le sens d'Edouard, qui consiste à dire qu'il y a un fait de civilisation. Les cartes peuvent être redistribuées de façon très rapide et on gagnerait à observer ce qui se passe notamment du côté de Facebook, qui pourrait être de nature à remettre en cause d'une façon ou d'une autre le leadership de Google.
Oui, Marie-Noëlle Lehmann.
Il y a un problème de domination culturelle aussi auquel il faut être très attentif, parce qu'il y a un effet concentration au bout d'un moment. Et je regrette par exemple que la ministre de la Culture ait poussé à une alliance entre Google et le Google européen sur le livre que souhaitait créer Jean-Noël Jeannet, qui était un beau projet européen. Je ne vois pas pourquoi aller se jeter dans les bras de Google, et je souhaiterais qu'au contraire, on ne joue pas la carte du monopole.
Parce qu'il est devenu incontournable.
Mais après, qui ne peut pas être administré, c'est le secteur de
mais
de
je
l'internet.
Ne dis pas que ce doit être administré. Le projet n'était pas que administré. Il y a c'était un projet européen autour du livre. C'est le monopole, parce que quelque part, ça crée une culture dominante. Enfin,
cela dit,
il faut favoriser la diversité des entrées.
Il est assez naïf de dire que c'est Chirac et Schröder qui vont ensemble mettre en place le concurrent de Google Print.
Bien entendu, vous avez raison. Mais attendez, je voulais quand même rebondir sur Facebook, si vous me le permettez.
Oui, Facebook,
parce qu'il est en train de se passer quelque chose sur Facebook et il y a peu de gens qui sont au courant. Il y a une élection présidentielle qui est organisée par la direction de Facebook Monde. 80 millions d'utilisateurs, 400 000 en France. C'est le truc qui explose. Je rappelle que la boîte a été valorisée à 15 milliards de dollars.
Voilà, c'est pour ça que Microsoft a pris des parts la semaine dernière.
Qui était en compétition avec Google d'ailleurs pour acheter des parts. Il y a trois candidats qui se distinguent. Il y en a un qui est pour la guerre en Irak, un Américain. Il y en a un qui est contre, un Libanais, pour la paix dans le monde. Il y en a un troisième, un Français. On a un Français qui est en tête dans cette compétition pour la présidence de Facebook, dont l'enjeu sera le contrôle de la page d'accueil de Facebook, qui est une page d'accueil sur laquelle transitent 20 millions de personnes
comme
chaque
quoi,
jour.
Vous voyez bien,
c'est du lourd, Marie-Noëlle Lehmann.
C'est pour enjeux ça qu'il publicitaires
y a un
enjeu
culturel. Et donc, autant je ne pense pas que les États doivent organiser, autant on doit favoriser l'émergence de la diversité, et en particulier d'une diversité européenne sur ce terrain mondial.
Rafik Smati.
Oui, je pense que l'exemple de Facebook est très intéressant et montre que tout peut être remis en cause. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on va devoir observer dans les prochaines semaines et les prochains mois.
Allez, un mot, la Fed qui abaisse son taux directeur d'un quart de point à 4,5% ce soir, décision attendue, bonne décision, tiens, qui prend la parole, Rafik Smati.
La psychologie financière est quelque chose de très intéressant. On se demandait si ça allait être 0,25 ou 0,5, c'est 0,25, et du coup, manifestement, comme le disait votre journaliste tout à l'heure, les acteurs avaient tendance à l'anticiper, et donc il n'y a aucune surprise, aucune réaction.
Marie-Noëlle Lehmann.
Que fait la BCE ? on aimerait avoir une BCE qui ne soit pas uniquement l'œil rivé sur l'inflation. Et alors, je termine sur le traité. J'espérais que, que Sarkozy obtiendrait au moins ça.
Vous voterez oui ou non ?
Moi, personnellement, en l'état actuel des choses, je voterai non. Mais enfin, je demande surtout un référendum.
Vous êtes eurodéputé, parce que vous n'êtes pas parlementaire national.
Si, mais je vous ferai remarquer que nous, on vote des eurodéputés aussi sur le traité. Hein. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il faut un référendum. Mais je veux parler de la BCE. On aurait pu espérer qu'il y ait rajouté croissance et emploi dans les missions de la BCE, comme c'est le cas de la Fed. Et là, il fait un choix croissance-emploi en évitant aussi trop d'inflation.
Édouard Filias.
On peut dire ce qu'on veut de la Fed, mais au moins la Fed a une politique et les acteurs peuvent l'observer et comprendre cette politique et la rendre lisible. Et c'est une des conditions de la confiance, ce que ne permet pas aujourd'hui la BCE, dont la politique est pour le moins illisible.
Voilà, bonne soirée Édouard Filias, merci d'être venu. Édouard Filias, consultant d'image et stratégie, l'agence de com, de conseil en com, dirigée par Thierry Sausset. Bon retour, merci Marie-Noëlle Lindemann.
Merci.
Eurodéputée socialiste, on a passé une bonne soirée. Et puis Rafik Smati, bonsoir, on a été content de vous rencontrer ici. On vous a souvent donné la parole sur BFM.
Google.
J'espère pour lui. Dromadaire.com, le leader de la carte virtuelle. Voilà, profitez-en encore pendant quelques heures pour Halloween avant les fêtes de Noël.